Il est 13h34 minutes. Donald Cucciuletta, bonjour. Est-ce que Donald est là?
Oui, je suis là.
Bonjour, Donald.
Bonjour.
Il n'y a qu'un petit délai, n'est-ce pas?
Oui. Encore? Encore?
Ah, c'est ça, exactement. Bon, parlant du Mexique, oui. Manuel López Obrador, le nouveau président élu, a répondu à Donald Trump.
Oui, il a répondu à Donald Trump. On sait qu'Obrador, c'est un homme qui a été élu sur une base d'un programme de gauche. Il fait des années qu'il essaye de finalement devenir au pouvoir. Bon, cette fois-ci, il a réussi, il a été élu il y a quelques mois. Il va prendre le pouvoir au début décembre, selon la constitution mexicaine. Mais il a fait un discours hier disant très clairement à Donald Trump qu'il n'y aura pas de mur entre les États-Unis et le Mexique, puis que pour lui, le mur, ça empêche le développement économique du pays et qu'effectivement, ils sont toujours intéressés à transiger avec les États-Unis, mais pas de mur. Donc, déjà, c'est une position assez ferme. On reprend un peu le même discours qui était là avant, mais là, j'ai l'impression que ce discours-là est davantage beaucoup plus confrontationnel. Mm-hmm. Et Obrador, c'est clair qu'il veut effectivement dire à M. Trump, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec le Mexique, d'une part.
Ben oui.
Mais deuxièmement, il faut dire aussi que ça va sûrement créer un certain, disons, malaise dans la diplomatie entre les deux pays, c'est clair. Est-ce qu'il y aura une crise? On le verra dans l'avenir. Puis l'autre question qu'il faut se poser, on est encore dans la période qu'on n'a pas terminée, la question de l'ALENA. Donc, est parti le Mexique. Mm-hmm. Puis là, on entend beaucoup parler que probablement l'ALENA ne réussira pas à être signée, mais on fera des libre-échange entre les États-Unis et le Canada et les États-Unis et le Mexique. Mm. Donc, finalement, tout ça joue présentement sur une position prise par M. Obrador sur la question du mur, mais je m'attends aussi surtout qu'à une position de gauche, c'est le programme avec lequel il a été élu. Sûrement, il y a d'autres points aussi que M. Obrador veut défendre en fonction des intérêts mexicains et surtout l'intérêt en fonction de son programme. Donc, on verra tout ça. Fait que ça peut jouer. Ça va jouer assez dur, je pense. Il faut dire que l'ancien président du Mexique était beaucoup plus de tendance conservateur, qui faisait que finalement était beaucoup plus proche de l'administration Trump, même si lui-ci n'était pas nécessairement d'accord avec le fameux mur. Mais néanmoins, il y a d'autres éléments de son programme qui étaient proches de M. Trump, tandis que M. Obrador, on peut dire quasiment à 90%, son programme n'est pas du tout pareil que M. Donald Trump.
Mais c'est bien long, la transition là-bas, parce qu'il a été élu au mois de juin.
C'est sûr, ça bizarre, hein?
Ben oui, il va seulement être fermenté au mois de décembre. C'est une
au début décembre. C'est une drôle de procédure. Effectivement, c'était inscrit dans la Constitution. Moi, qu'on veut changer la Constitution. J'ai l'impression qu'on veut garder cette période-là de savoir, premièrement, de tout vérifier si le comptage est juste.
Ouais.
Il y a eu dans le passé, surtout quand le prix a été longtemps au pouvoir pendant une soixantaine d'années avant de perdre une première fois, puis là, ils sont revenus au pouvoir par la suite, qui fait que finalement, on doit vous poser la question, c'est est-ce que les élections sont arrangées.
Ouais.
Peut-être là, c'est de donner le temps de vraiment compter État par État, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, le Mexique, c'est les Estados Unidos de México, hein, c'est ça. Donc, les gouverneurs ont un rôle à jouer, etc. Ça qui fait que finalement, peut-être beaucoup plus de transparence aussi, mais c'est vrai que c'est long. Puis parfois, je me disais, écoutez, au moins un mois, deux mois, ça va, comme aux États-Unis, c'est quasiment 6-7 semaines, puis là, on peut passer à l'acte. Mais dans ce cas ici, les autres, c'est début décembre.
Oui, parce qu'on trouvait que c'était long aux États-Unis, là.
Oui, c'est long aux États-Unis, mais on sait que pendant 6 semaines, il y a beaucoup de transferts de pouvoir qui se font. Peut-être que c'est la même chose, mais non, effectivement, c'est un peu long, mais il semble que les Mexicains sont à l'aise avec ça.
Oui. Bon, parlons de ces feux très importants en Californie, les plus gros, les plus dévastateurs de l'histoire là-bas.
L'État.
Là.
Ouais. Oui, de l'État depuis l'ère contemporaine. Il faut dire que depuis la Californie, Californie est un État. Puis depuis 100 ans, on tient des registres sur tous les feux de forêt en Californie. Et puis à date, on dit que c'est les plus importants qu'ils ont jamais eu depuis 100 ans, donc depuis le prix des registres. Donc l'État, la période contemporaine de la Californie, la période moderne, si vous voulez. Mm-hmm. Et donc Mendocino, qui est au nord, déjà a détruit 283 000 acres. C'est énorme. Ça s'est jamais vu. Et puis en plus, le Carr, 164 000 acres de terrain détruit, 7 morts, puis c'est classé le 12e le plus important, imaginez-vous.
Ouais.
Fait que non, la, mais il faut jamais oublier que la Californie a toujours un problème d'eau et de sécheresse.
Oui.
Et c'est un long, long débat parmi ceux qui sont des agriculteurs, qui sont les grands agriculteurs, soit au niveau des oranges, des pamplemousses, les avocados et tout ce que la Californie produit pour finalement les fruits et légumes pour l'ensemble de l'Amérique du Nord, il faut le dire. Et ça a toujours été une bataille entre ces gens-là qui sont, c'est plus des fermiers, là, on peut dire ça, c'est du agro-business, finalement.
Oui.
C'est énorme, les fermes en Californie, qui fait que finalement, ces gens-là ont toujours pris l'eau en premier lieu. On a toujours, et quand on a besoin de l'eau pour combattre les feux de forêt, il y en a moins. Et l'autre aspect aussi, c'est que la nature aussi joue en Californie, que c'est un État qui a beaucoup des périodes de sécheresse.
Oui.
Et donc, la bataille au niveau de l'eau, c'est très, très, très important, effectivement, où va aller l'eau, comment qu'on va diriger l'eau, à qui on va le donner, comment qu'on va le répartir. Tout ça, c'est une lutte politique en Californie depuis plusieurs années.
Et je ne sais pas si tu as vu avec quoi, tu sais, nous, on a les CL-415, les avions
oui.
Jaunes, là, avec lesquels on combat les flammes quand il y a des feux de forêt.
Oui.
Là-bas, ils ont des 747.
Oui, 747. Oui, j'imagine-tu, là? C'est énorme, là. Non, ça montre à quel point c'est très, 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 très important, finalement, ouais. De combattre ça, parce qu'ils vivent ça régulièrement, puis en plus, on dit, on essaie d'empêcher les gens de construire leurs maisons dans des endroits où c'est dangereux, mais ils le font quand même.
Ouais.
Donc, c'est les maisons qui passent au feu. Je pense que c'est 1600 au niveau de celui de la région de Carr.
Mm-hmm.
Au niveau de Mendocino, je ne sais pas les chiffres, mais ça doit être autant, sinon plus, qui fait que finalement, on continue à répéter les mêmes choses qu'on a faites dans le passé, sachant très bien que la Californie vit ça. Donc, c'est pas parce que c'est, tu sais, le ciel qui a décidé, c'est qu'il y a toujours un problème en Californie entre l'eau, comment qu'on sert de l'eau, puis la sécheresse qui vient régulièrement dans cet état-là.
Et bon, en Amérique du Sud, maintenant, un nouveau président en Colombie,
oui.
Un conservateur de la droite radicale.
Oui, tout ouais. À fait. Iván Duque, qui a pris le pouvoir, et que lui veut renégocier l'entente qui avait été signée avec le président Santos, sortant, l'accord avec le FARC.
Oui. Ben ça, c'est l'accord qui avait amené l'espèce de paix là, avec les FARC.
La paix, puis qui avait donné à Santos le prix Nobel de la paix.
Oui, exact.
Puis lui, il veut le renégocier. Parce qu'il considère que les terroristes sont bon, il faut aller beaucoup plus loin.
Mm-hmm.
Mais en plus, avec son programme économique, sa programme contre la drogue des cartels, de plus en plus, on voit le retour de la politique américaine, finalement, en Amérique latine, puis particulièrement en Amérique du Sud. Puis il semble que les États-Unis vont réapparaître puis utiliser la Colombie en fonction de sa position géostratégique avec le Venezuela au nord,
ouais.
L'Équateur à l'ouest, le Pérou ici, un plus au sud, évidemment, t'as Evo Morales avec la Bolivie, puis effectivement le Brésil, qui rentre en élection bientôt, qui fait que les États-Unis sont en position en Colombie avec un président pro-Trump. Faut pas l'oublier.
Ouais.
Pro-Trump, en plus, au niveau de son programme, la façon qu'il veut gérer le pays, etc., etc., qui fait que finalement, les États-Unis vont revenir en force en Amérique du Sud. Puis toute la question de la drogue, les cartels, etc., mais en plus, tous les gouvernements de gauche
mm-hmm.
qui semblent vouloir présentement en grande difficulté, il faut le dire, et c'est clair qu'avec un petit coup de pouce de la part de M. Deguet, et puis effectivement Duguet et M. Trump, ça va en faire tomber ces gouvernements-là. Donc, il y a toute une situation géostratégique qui vient de changer avec l'élection du nouveau président en Colombie.
Et parlons de la France, une autre année difficile qui est prévue
ah, oui.
pour le commerce extérieur. Ça va pas bien, l'économie, là, pour l'instant.
Non, elle va pas bien, l'économie. D'ailleurs, M. Macron avait été élu pour tenter de restructurer l'économie française,
oui.
qui était un désastre sur François Hollande. Et il avait misé beaucoup sur la lutte interne, dans le sens qu'un programme interne au niveau des syndicats, au niveau de la fonction publique, mais surtout basé sur un commerce extérieur où la France pourrait récolter énormément d'argent pour pouvoir payer les changements à l'interne. Mais là, si tu regardes ça, on dit que dans le premier trimestre de cette année, ils ont perdu 33,5 milliards de dollars. Ils sont en déficit.
Wow.
Puis il paraît que ça va continuer jusqu'à la fin 2018. Qui sait pour 2019? Tandis qu'en Allemagne, aux mêmes périodes, les autres sont en excédent de 121 milliards.
Mm-hmm.
Fait que vous voyez, là, c'est Un des choses qui a fait que les événements qui a fait qu'ils ont perdu énormément d'argent, la France sur la politique étrangère au niveau des commerces et les investissements, c'est Airbus. Airbus est obligé de retirer le contrat avec l'Iran parce que Airbus est aux États-Unis maintenant. Il va construire une usine à Mobile en Alabama.
Où on va construire entre autres des C-Series.
Exactement, qui sont rendus à Airbus 300 maintenant, hein, ils ont changé de nom.
Ouais.
Et Airbus voulait pas déplaire à l'administration Trump, qui ont laissé tomber leur contrat pour construire 66 avions pour le gouvernement iranien.
Mm-hmm.
Et ça, ça a été un gros coup, justement. Et vous voyez, finalement, il y a des compagnies françaises qui sont établies aux États-Unis, puis l'argent parle, hein? Money talks. Et donc, faire l'argent avec les Américains fait qu'ailleurs, on devait de suivre un peu le dictat de l'administration Trump. Mais ça, ça fait, effectivement, au bout du compte, ça fait mal à l'économie étrangère, la question des investissements françaises à travers le monde.
Monsieur Cuccioletta, ça a été un plaisir.
Plaisir.
On se reprend demain?
Demain, absolument.
Okay. Salut.
Au revoir.
Daniel Cuccioletta. Et les nouvelles internationales.